sujet qui va certainement vous intéresser aujourd'hui, puisqu'on parle de mines, de l'histoire des mines. Moi, je trouve ce livre fascinant, « Des mines et des empires, une saga géopolitique des ressources minérales ». C'est aux éditions Multimonde et j'ai le plaisir de m'entretenir avec l'auteur. Il s'agit de Michel Gébrac, qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Gébrac.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes aussi directeur de l'axe exploration du réseau québécois de recherche sur les minéraux critiques et stratégiques. Vous êtes un spécialiste mondialement reconnu dans les domaines des ressources minérales, métalliques, de l'économie, de la géopolitique des ressources. Et en plus, j'étais curieuse, je voulais demander, est-ce que vous avez déjà été un mineur, vous avez déjà travaillé dans des mines, M. Gébrac?
Ah oui, absolument. J'ai commencé ma carrière comme géologue de mines au Maroc, c'est ce que vous voyez.
Ah oui?
Ça fait un petit moment.
Alors, vous avez travaillé un peu partout sur la planète. Là. Vous avez parlé du Maroc, mais du côté de la France, Canada, des États-Unis aussi?
Oui, j'ai eu la chance de travailler pour le service géologique américain pendant un an. Puis en Australie, un peu partout dans le monde. Les géologues, ça se promène hein, parce que les mines, les roches se baladent un peu moins que les géologues. Donc, il faut aller sur le terrain pour aller les voir. Donc, c'est ça que j'ai eu la belle occasion de voir beaucoup de projets miniers dans plein de territoires différents.
Qu'est-ce qui vous a amené vers... c'est une passion pour vous.
Ah oui, mon démarrage, c'est on commence enfant en ramassant des coquillages et des cailloux sur le bord des plages. Ça commence souvent comme ça. Et puis, y a des gens qui changent, et puis moi, j'ai pas changé. Je suis resté à ramasser des cailloux sur la plage. Mais ce qui était intéressant, c'est de le regarder d'abord sur le plan technique, hein, parce que j'ai ma formation, mais de plus en plus avec un regard, je dirais, plus humain pour voir les sociétés qui se développent autour des mines.
Vous en parlez longuement dans votre livre, M. Gébrac, mais à quand remontent les premières mines? Nous, ici, au Nouveau-Brunswick, depuis de nombreuses années, on a vécu avec la mine Brunswick. Là, c'est la mine Caribou. Mais ça remonte à beaucoup plus loin là, qu'il y a une cinquantaine, soixantaine, centaine d'années. Là.
Ah oui, oui. Les mines sont un peu constitutives de l'être humain, en fait, hein, parce que la première utilisation des minéraux, c'est la parure. C'est en fait... Souvent, on dit, l'or, l'argent, ça sert à rien. Mais en fait, les premiers êtres humains ont voulu se décorer, hein, les hommes comme les femmes, d'ailleurs. Et donc, on commence par ramasser de l'ocre, souvent. Et l'ocre, en fait, c'est la partie supérieure de beaucoup de mines. Et puis, je dirais, au début de l'humanité, quand les premières agglomérations se constituent, quand la densité humaine est suffisante, on voit se spécialiser un peu les activités. Et donc, on va avoir des gens qui vont... être les gens des villes, et puis on va avoir les gens des champs, puis on va avoir les gens des champs des mines, parce que ça devient assez rapidement quelque chose d'un petit peu technique, hein, spécialisé. Mm-hmm. Et donc, on va voir se construire ces mines-là, et pendant très longtemps, en gros, on exploite du cuivre, du fer, du plomb, du zinc, pas toujours de l'argent et de l'or, mais un peu de mercure, puis c'est ça qu'on exploite. Et en fait, les colonisateurs européens qui sont venus... au Canada, au Nouveau-Brunswick, ou à Terre-Neuve, ils sont tous en fait revenus avec cette expérience, qui était d'ailleurs souvent une expérience espagnole, parce que en Europe, le pays des mines, c'était l'Espagne, depuis les Romains, vieille histoire. Et donc ils sont venus avec leur tradition, leur culture, leur loi, souvent. Et en fait, on voit bien qu'il y a des mines qui durent longtemps et d'autres qui durent moins longtemps. Brunswick, le camp de batteurs, je dirais, c'est un des grands camps de l'Amérique du Nord qui a été développé depuis très longtemps et qui a certainement encore beaucoup d'avenir, même si c'est difficile parce que, on sait bien, ça ouvre, ça ferme, ça change de propriétaire.
Oui.
C'est le cas qui s'est produit pour la mine Caribou, par exemple. Mais on voit bien que la difficulté, c'est la variation du cours des métaux. S'il y a bien quelque chose qui n'est pas stable, plus que la météo, je dirais, c'est le cours des métaux parce que, en fait, c'est une affaire de demande, d'offre et de demande. Et ça, on n'est pas du tout permanent là-dessus. Tantôt, on a besoin, l'économie va bien, on a tous besoin d'appareils électroniques, de voitures, des choses comme ça. Et puis, l'économie change et là, il y a surplus. Et les mines, ça ne marche pas comme ça. Les mines, ça se doit produire de manière régulière, ça ne peut pas s'adapter facilement. C'est ça la difficulté. Donc on a des grandes variations de prix des métaux qui font des grandes difficultés, je dirais, dans la gestion des territoires.
Mm-hmm. Vous écrivez, vous avez écrit ce livre, Des mines et des empires. Il s'agit d'un essai. Vous nous racontez l'histoire des mines, mais des empires aussi, parce que grâce à l'extraction de certains minéraux, de produits, il y a certains pays là, qui ont été chercher beaucoup de pouvoir.
Ah oui, oui. C'est la force des empires, c'est justement la capacité d'aller chercher des mines à l'extérieur. C'est même d'ailleurs la logique même. Hein, la plupart des empires, on va prendre nos amis britanniques, là, l'empire colonial britannique, au démarrage, ce sont des mines chez eux. On ne le sait pas beaucoup, mais au démarrage, l'Angleterre, le Pays de Galles surtout,
oui.
Ce sont des pays miniers.
Hein, ah oui.
Vraies compétences. Le secteur de Cardiff, au Pays de Galles, ils produisaient du charbon, ils produisaient du fer. C'est là où les premières aciéries ont été faites. Et puis, ils ont produit également du cuivre. Et puis, assez rapidement, ils sont tombés en panne. Ils sont tombés parce qu'il n'y a plus assez de cuivre. Alors, c'est une des motivations qui fait que l'Empire britannique se projette à l'extérieur et va chercher du cuivre. Ils sont au bord de la mer, c'est les marins. Donc, ils vont chercher du cuivre partout sur les mers. Et les premiers cuivres qu'ils vont chercher, c'est du cuivre qui vient de Cuba. C'est parce que Cuba, c'est les Antilles, en fait. Hein. Mm-hmm. Et donc, c'était la zone qui commençait à être peuplée par des Occidentaux. Et ils vont, en fait, les Anglais vont dominer le monde. Et ils vont, l'une des raisons, c'est avec un système maritime tout à fait au point, une marine britannique bien connue, ils vont aller chercher du cuivre partout pour alimenter leur fonderie qui se trouvait en Pays de Galles. Donc, vous voyez qu'il y avait une logique. Hein, les empires, ils se développent comme ça, pour aller chercher des minerais pour leur population,
oui.
Tout autour. Et suivant qu'ils soient au bord de la mer ou pas au bord de la mer, ben, ils ont des comportements différents. Les British, les Anglais, étaient évidemment très, très proches de la mer à Cardiff, donc ils sont allés faire un empire, qu'on dit thalassique, hein, parce que sur les océans, alors que les Russes ou les Chinois, qui ont eu des gros empires aussi, mais ils ont moins attiré par la mer, ils sont allés plutôt vers l'intérieur des terres. Donc ils ont conquis des territoires vraiment vers l'intérieur de l'Asie.
À quand remontent les premières mines au Canada, M. Gébrac?
Oh, on parle du 18e siècle. Hein. On a les premiers explorateurs, aussi bien d'ailleurs les Anglais que les Français, ils font évidemment de la traite de la fourrure, on le sait tous, hein. mais ils vont très vite être accrochés par des petits indices d'argent, parce que l'argent, c'est ce qui vaut le plus, c'est le plus facile à monnayer. Il y a une demande d'argent dans le monde. Et donc, on va avoir des colons qui vont commencer à exploiter, alors du côté Témiscamingue, mais également sur la côte de Terre-Neuve, on va avoir des petites productions qui vont intéresser beaucoup, évidemment, les rois d'Angleterre, parce que, faut bien comprendre que ce qui est argent et or, ça appartient, a priori, à la couronne. C'est des métaux qui appartiennent au roi. Alors que si vous exploitez du calcaire ou du sable, ça appartient au local. Mmh. Et donc évidemment, les États sont intéressés par ces métaux-là. Alors ça commence tout petit, et il faut bien comprendre que la mine, il faut trois choses pour faire une mine. Il faut du minerai, bien sûr, il faut de la géologie, mais il faut également des gens qui connaissent quelque chose, et puis il faut des sous, parce que c'est une industrie capitaliste dans laquelle on met des sous, et le retour des sous reviendra 5 ans ou 10 ans après. Tout à fait différent de l'agriculture. Hein. L'agriculture, vous semez, vous avez normalement les plantes l'année d'après. Mais la mine, il faut des sous. Donc on a toujours besoin de capitaux et ça va attendre, le développement minier va attendre l'arrivée de capitalistes britanniques, notamment, pour développer les mines au Canada.
C'est fascinant. C'est un merveilleux livre d'histoire en même temps, votre livre, M. Gébrac. Dites-moi, est-ce que la planète est toujours aussi riche en ressources?
Alors, allez, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu de plus en plus de besoins. Si vous prenez votre téléphone portable, là, il y a 30 métaux là-dedans. Donc, alors qu'il y a 200 ans, on suffisait un petit peu avec du cuivre et du fer, ben maintenant, on a besoin de beaucoup plus de métaux parce qu'on a compris que chaque métal avait ses propriétés, était capable de nous aider et aider l'humanité pour différentes choses. Alors, donc, on a plus de métaux, besoin, donc ça, c'est évidemment qualitatif. Et puis alors, la planète, vous le savez, a explosé du point de vue du nombre d'habitants. Hein. Et donc, on a des besoins considérables. 8 milliards d'habitants. Pensez qu'un Canadien moyen, ça consomme à peu près 8 kilos de cuivre par an.
Voilà. Oh.
Et un Africain moyen, ça consomme 500 grammes. Et l'Africain moyen, il a envie de vivre comme un Canadien moyen.
Ah.
Alors vous imaginez, la planète est sous tension. Et évidemment, il faut le recyclage, il faut arriver à recycler mieux, il faut arriver à produire mieux, il faut peut-être aussi être un peu plus sobre. Donc il y a vraiment, parmi les grands enjeux de l'humanité, on parle souvent de l'effet de serre, des besoins d'énergie.
Est-ce que le réchauffement climatique affecte?
Mais pour lutter à ça, pour lutter contre le réchauffement climatique, faire des éoliennes, faire des panneaux solaires, faire des batteries au lithium, ben ça prend plus de métaux qu'avant.
Okay.
Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de prendre conscience, alors qu'on pensait que c'était une industrie du passé. Ben, c'est une industrie du futur, en fait.
On en apprend énormément dans des mines et des empires. Une saga géopolitique des ressources minérales, c'est aux éditions Multimonde, je le rappelle. C'est un livre fort intéressant, 228 pages, $24.95, avec M. Michel Gébrac. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin, M. Gébrac.
Merci beaucoup, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.